Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Éclairage s'intéresse aux 10 hauts lieux de la préhistoire dans le monde. Près de 2 millions d'histoires vous sont contées en 3 émissions en compagnie du professeur de Lumley, directeur de l'Institut de paléontologie humaine, correspondant de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et de l'Académie des sciences. Professeur de Lumley, bonjour.
Bonjour madame.
Lors de la première émission, nous avons évoqué ensemble les découvertes de Fedjez en Éthiopie, de Manisi en Géorgie et Baroncoleón, Fuente Nueva et Cima del Elefante en Espagne. Dans la deuxième émission, nous avons rendu visite à l'homme de Yunxian en Chine avant de revenir en France dans la grotte du Vallonnet et dans la cône de l'Arago, rencontrer cette fois-ci l'homme de Totavel. Dans cette troisième et dernière émission, nous restons en France, mais cette fois-ci à Nice, dans la grotte du Lazaret, grotte que vous avez bien connue, puisque vous menez des fouilles depuis maintenant plus de 30 ans.
Oui, on y fouille toujours d'ailleurs. Ouais. Si vous venez, alors je vous invite toujours à venir voir nos sites. Vous pouvez venir à Nice, vous suivez le, aller au port de commerce, vous suivez la petite route qui part du port de commerce et qui se dirige vers Villefranche, au bord de mer. Et quand vous arrivez au niveau de, pourrait dire, du tribunal administratif ou d'un très bon restaurant qui s'appelle Coco Biche d'ailleurs, on pénètre
vous
dans
faites le guide touristique complet.
On pénètre dans le parc. Et là, vous pouvez trouver la grotte du Lazaret à côté du laboratoire départemental de préhistoire du Lazaret. Alors, il y a une grotte qui est assez vaste, où nous, en effet, nous menons des fouilles depuis très longtemps. Et on a mis au jour des campements de chasseurs de cerfs, mais aussi des chasseurs de bouquetins, qui s'étaient installés dans la grotte entre 180 000 et 130 000 ans. Et à côté, il y a un laboratoire de recherche, le laboratoire départemental de préhistoire du Lazaret, qui est porté par le Conseil général des Alpes-Maritimes, où il y a une vingtaine de chercheurs qui travaillent tout au long de l'année, d'une équipe interdisciplinaire, un très beau laboratoire, bien équipé, qu'on peut dire qu'il est un pôle d'excellence internationale dans le domaine des recherches préhistoriques. Et alors, cette grotte a été occupée par des chasseurs de cerfs et de bouquetins, bon, aussi d'autres espèces, et un peu de cheval, un peu de bison, enfin, c'est surtout des chasseurs de cerfs et un peu de bouquetins, qui s'était installé dans la grotte, pas d'une façon continue, entre 180 000 ans et 130 000 ans. Alors c'est comme dans l'Argon, on peut mettre en évidence plusieurs types de campements, on peut mettre en évidence des campements de longue durée, moins qu'à Totavel, il y en a peut-être un, mais enfin, surtout des campements saisonniers temporaires. Alors on a des campements de printemps, des campements d'automne, parfois de simples haltes de chasse. Et il y a quelques années, nous avons eu par exemple, pour en citer un, que nous avons fouillé il y a quelques années, c'est une halte de chasse d'un petit groupe de chasseurs. Alors nous savons par exemple qu'ils sont venus de Ligurie, sans doute au bord de la rivière Tadja, puisqu'ils ont amené dans la grotte quelques éclats de quartzite de l'axe central des Apennins, des quartzites noirs qui viennent donc de 60 km, qu'ils ont amené de là. Puis on peut dire qu'en venant, ils ont fait une halte dans la région de Menton, puisqu'il y a un site qui s'appelle Chauti, où il y a du silex bleuté, de roches bleutées, et on en a quelques-unes aussi dans la grotte qu'ils ont transportées dans leur poche. Et puis ils se sont installés dans la grotte du Lazaret qu'ils devaient connaître. Ils connaissaient parfaitement leur environnement, leur milieu, ils savaient où étaient les gîtes de roches de matière première, où étaient les grottes, où on pouvait chasser. Et ils se sont installés en automne, au mois de novembre, pendant pas longtemps, pendant 15 jours, peut-être au maximum un mois, dans la grotte du Lazaret, pour chasser. Et alors, au cours de 15 jours, entre 15 jours et un mois, et on connaît l'âge en prenant en compte le stade de rupture dentaire des animaux jeunes, et en particulier des mandibules de cerfs, au cours de leur séjour, ils ont abattu une vingtaine de cerfs, ils ont abattu un chevreuil, ils ont abattu 5 bouquetins, un chamois, trois grands bœufs.
Ils étaient très nombreux alors.
Ils devaient être un petit groupe, mais moi, des bons chasseurs, ils avaient certainement des stratégies d'habitage, de chasse élaborées, ils savaient organiser des chasses en groupe. Et ils sont venus récupérer ces animaux. Alors, ils les ramenaient. Là, ils habitent la grotte. Alors, ils vivaient sur un territoire assez restreint. Pour fabriquer leurs outils, ils allaient au bord de la plage ramasser des galets. la plage qui était en contrebas. Mais oui. Alors, aujourd'hui, on est tout près du bord de mer. Si vous venez voir le Lazaret, c'est juste à côté du bord de mer. Mais à l'époque, il faisait froid. Il y avait des grands glaciers qui s'étaient développés sur les continents. Et la mer s'était abaissée, était moins 120 mètres plus bas. Alors, aujourd'hui, la grotte est à 20 mètres au-dessus du niveau de la mer. À l'époque, elle était à 140 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et donc, il fallait aller assez loin pour, sur la ligne de rivage. Et ils allaient ramasser des galets pour faire des chopères, des bifaces. Et puis quand ils avaient besoin de roches siliceuses, ils allaient à 15 km au nord, près du col de Nice, ramasser des calcaires silicifiés, des silex. Ils vivaient sur un territoire de 15 km de rayon pendant un mois ou 15 jours. 15 mois, ils ont rayonné sur un territoire de 15 km. Et ils ont abattu, donc je vous l'ai dit, 23 cerfs, un chevreuil, Saint-Boucotin, un chamois, trois aurochs. Alors, ils ramenaient les quartiers d'animaux dans la grotte, ils les dépeçaient. Alors, les bœufs, l'auroch, il a été dépecé, sûrement découpé sur le territoire de chasse. Par contre, le cerf ou le bouquetin, il le ramenait entier dans la grotte ou à l'entrée de la grotte, il le découpait à l'entrée de la grotte. Et on trouve, par exemple, pour le bœuf, que quelques parties du squelette, tandis que pour les cerfs et pour les bouquetins, on trouve toutes les parties du squelette. Et puis, qu'est-ce qu'ils faisaient? Eh bien, ils installaient un foyer. Un petit foyer de 30 cm de diamètre qui était alimenté avec des herbes marines. Et ils allaient chercher alors, quelques brindilles de charbon de bois, bien sûr, des branchettes. Oui. Ça, mais il n'y a pas beaucoup de charbon de bois. Mais il y a surtout les restes d'herbes marines.
Qu'ils faisaient sécher, alors.
L'herbe ne s'est pas conservée. Non, ils allaient les chercher au bord de mer. Elles étaient sèches. Vous avez des feuilles de Pousinoni, oui, ramenées par les tempêtes, à Hachem, comme on en trouve, des mattes d'herbes marines. Et ces herbes marines, elles servaient à alimenter leur foyer. Alors, dans les foyers, on trouve des fragments de gastéropodes marins comme Bithyum reculeatum, qui sont des espèces qui vivent actuellement dans l'herbier de Pousinoni. Mais on trouve même des foraminifères qui vivent fixés sur les feuilles Pousinoni comme Nubecularia. Et donc, on peut dire que ces foyers ont été entretenus, allumés avec des herbes marines. Et autour, il y a des matières organiques et on a étudié ces matières organiques. On peut mettre en évidence que ce qui correspond à la dégradation, ce sont des acides carboxyliques qui correspondent à la dégradation de lipides animaux et pas végétal. Et on trouve des composés carboxyliques, mais surtout des composés aromatiques qui prouvent que ce sont des graisses brûlées. Et on peut penser que ces foyers servaient à faire sécher la viande. Et c'est vrai qu'ils ont ramené 23 cerfs, ça fait beaucoup de viande, et sans doute ils
les séchaient. Ils pouvaient la conserver.
Et puis un peu plus loin, il y a un tas d'ossements, mais bien circulaires, dans lesquels il y a des os longs fracturés, des mandibules ou des maxillaires qui sont cassés, ou des crânes qui ont été éclatés. Et ça, c'est parce qu'ils ont récupéré de la cervelle, de la moelle, des os, le sucus conjonctif qui est autour des racines et des dents, pour se procurer des graisses. Et autour de ce tas d'os, il y a des matières organiques. Ce sont aussi des acides carboxyliques qui correspondent à la dégradation de lipides animaux. Mais il n'y a pas de composés aromatiques. C'est-à-dire qu'ils mangeaient là des graisses ou de la viande sans la faire cuire. Oui, c'est un petit tas, et ce tas n'a pas été piétiné. C'est-à-dire que les hommes ne sont pas restés après ce repas qu'ils ont fait autour de ce tas. Ils sont partis tout de suite, et heureusement qu'après le départ des hommes, un carnivore n'a même pas eu le temps de venir récupérer ce qui restait, puisqu'il y a eu une inondation, et ce tas est recouvert par une argile rouge. Vous voyez, il y a une inondation qui a amené l'argile. Et ça a fossilisé ce tas. Et nous avons une image du dernier moment où les hommes ont habité la grotte, après une campagne de chasse de 15 jours. C'était la bouffe des chasseurs avant leur départ.
Le dernier repas avant le départ.
Comme font les chasseurs aujourd'hui. Hein.
Cet espace était aménagé. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi le début, les prémices d'un mur.
Ah oui, alors ça c'est un autre niveau. Dans celui-là, il n'y avait pas de niveau de chasse, mais on a d'autres niveaux. D'ailleurs, on a un en ce moment qui est un peu plus ancien, qui date de peut-être 1 650 000 ans. Je ne sais pas, on ne connaît pas bien l'âge, on n'est pas très précis. Mais actuellement, il y a un campement de chasseurs de printemps qui a duré longtemps, qui a duré peut-être 6 mois. Et il y a un grand alignement de pierres, bien visible, qui a été aménagé. Alors ça, c'est un campement de plus longue durée.
Avançons dans le temps, toujours, si vous le voulez bien. Nous partons à Montpellier, du côté de la grotte de l'Ortus, où on trouve des traces de Néandertaliens situées entre 60 000 et 35 000 ans. On retrouve de nombreux restes d'hommes, j'imagine, dans cette grotte.
Si vous allez au nord de Montpellier, on va vers Trévières. Et quand vous arrivez à Trévières, vous avez deux massifs qui se regardent, l'un en face de l'autre. C'est le Pic Saint-Loup, qui est très connu, et en face, la falaise de l'Ortus. Alors si vous êtes courageuse, si vous avez des amis courageux, vous partez d'un petit ruisseau qui circule au bas de la falaise, et vous montez 200 mètres. Et après une montée de 200 mètres dans un éboulis, vous arrivez au pied de la falaise de l'Ortus, qui domine le paysage. Et là, il y a une grotte, une petite entrée, mais une longue grotte, un boyau qui a deux entrées. À la première entrée, il y avait une espèce de fossé. Et là, des chasseurs néandertaliens venaient régulièrement. Et entre 50 000 et 35 000 ans, des hommes venaient traquer des bouquetins sur les corniches escarpées du massif de l'Ortus. Alors, ils chassaient surtout des bouquetins et nous avons fouillé cette grotte pendant plusieurs années. C'est d'ailleurs dans cette grotte que j'ai trouvé le premier reste humain de ma vie. C'est la grotte d'Ortus, mais on a autour trouvé 120 restes humains aussi. Vous voyez, et ça correspond à nombreux individus, et c'était des restes humains néandertaliens. Alors pendant peut-être 20 000 ans, à des intervalles plus ou moins réguliers, des chasseurs néandertaliens venaient sur les corniches escarpées du massif de l'Ortus traquer des hardes de bouquetins. Alors on trouve des sols d'occupation très riches en ossements de bouquetins, mais aussi, alors ce qui est curieux, c'est qu'on trouve des restes humains, mais ce sont toujours des restes humains très fracturés, brisés, par exemple deux fémurs gauche côte à côte. Et si on les regarde bien, on voit que ces fémurs ont été cassés par des cassures volontaires. Il peut y avoir même des stries de découpage.
Mais ils étaient cannibales alors.
Et c'était un repère de cannibales. Un repère de cannibales, peut-être un cannibalisme rituel.
Mais je ne m'attendais pas à ça.
Alors, c'est l'homme de Néandertal. C'est l'homme de Néandertal enterre ses morts depuis 100 000 ans. Vous voyez, les plus anciennes sépultures datent de 100 000 ans, ou le Néandertalien, ou les hommes modernes archaïques. Mais c'était les porteurs de ce qu'on appelle les cultures moustériennes, que ce soit des hommes modernes archaïques en Palestine, comme la grotte de Kazé, ou comme ce Néandertalien, comme dans la grotte de l'Ortus, ou dans la grotte de la Chapelle aussi en Corrèze, ou dans la grotte de la Ferracie, l'abri de la Ferracie en Dordogne. Et les hommes enterrent leurs morts, et les morts témoignent que l'homme veut poursuivre sa route au-delà de la vie, veut poursuivre sa route dans l'au-delà. L'homme, vers 100 000 ans, refuse la mort. Il veut continuer sa route. Il se pose des questions sur sa place dans l'histoire de l'univers, sur sa place dans l'histoire de la vie, sur l'au-delà. C'est, on peut dire, c'est la naissance de l'angoisse métaphysique. C'est l'émergence de la pensée religieuse. Alors, l'homme va creuser une fosse pour déposer le défunt. Il enterre, il dispose dans la fosse des offrandes pour le voyage dans la vie future. Il recouvre la fosse par un tumulus de grosses pierres ou par une grande dalle de pierre comme à la Ferracie. C'est une nouvelle étape dans l'évolution culturelle de l'homme, dans le développement de sa cognition.
C'est typique de l'homme de Néandertal par rapport aux
avant autres, l'homme Néandertal, l'homme n'a jamais, on n'a jamais trouvé de sépulture plus ancienne que 100 000 ans.
Alors poursuivons justement la transition et toute trouvée vers la vallée des merveilles de la montagne sacrée alors, du Bégaud dans les Alpes-Maritimes où là on retrouve des inscriptions gravées qui restent encore d'ailleurs un peu mystérieuses. On a encore du mal à les interpréter.
Comment ça lire là, oui, la vallée des merveilles, c'est une montagne sacrée de l'âge du cuivre et de l'âge du bronze ancien qui a été fréquentée sans doute par des prêtres entre 3300 avant Jésus-Christ et 1800 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que pendant 1500 ans après, des populations de la Jugulation ancienne ont fréquenté cette montagne sacrée. Alors, ils avaient choisi le Bégaud pour plusieurs raisons. D'abord, c'est, vous savez, la montagne où habitent les dieux est forcément très haute. Et le mont Bégaud est un massif imposant dans le massif du Mercantour, qui soit de très loin, il soit depuis la promenade des Anglais à Nice ou depuis le pont de Vintimille. D'autre part, il est à la fois sur une voie de passage que la Vella Roya, qui fait communiquer, il est tout près de la Vella Roya, fait communiquer le littoral provençal-ligure au Piémont italien. D'autre part, ces hommes vouaient un culte aux divinités de l'eau, pour de l'eau. Et dans cette région du Bégaud, il y a des lacs partout, il y a des sources, des rivières, des torrents, des lacs. Et la montagne où habitaient les dieux de l'eau, c'était forcément un endroit où il y a de l'eau, c'était le mont Bégaud. Et puis c'est une région qui est riche en minerais de cuivre, en cuivre natif, mais aussi en azurite, en malachite, chalcopyrite. Et sans doute les prospecteurs de cuivre venaient chercher ce précieux métal. Et pendant 1500 ans, des hommes ont voué un culte aux divinités, à leur divinité, qui était le dieu de l'orage, le dieu taureau, maître de l'orage, qui bondit la foudre, dispensateur de la pluie fertilisante, et la déesse terre, qui doit être fécondée par le dieu du ciel pour apporter l'abondance aux humains. Et comme à Chataluc au 7e millénaire, comme à Muraibet, les hommes vouaient un culte à ce couple divin primordial, le dieu de l'orage et la déesse terre. Et sur les dalles gravées de la région du Mont Bégaud, on trouve des inscriptions, des signes, des idéogrammes qui nous transmettent les mythes cosmogoniques de ces premiers peuples métallurgistes des Alpes méridionales. Alors nous avons repéré, inventorié dans la région du Mont Bégaud à peu près 4000 roches gravées, sur lesquelles il y a 100 000 signes, dont 40 000 signes figuratifs. 40 000 signes figuratifs qui sont chacun des idéogrammes. Et en combinant des signes, les hommes ont combiné des idées. Et on peut dire que les gravures du Mont Bégaud correspondent à un langage symbolique inscrit dans la pierre qui nous transmettent à travers le temps les mythes cosmogoniques des premiers peuples métallurgistes des Alpes méridionales. Et on peut dire que les gravures du Mont Bégaud sont parmi les plus anciennes écritures que l'on connaisse dans l'histoire de l'humanité, bien plus anciennes que toutes les écritures chinoises, qui ne sont pas les plus anciennes, mais contemporaines, des écritures cunéiformes, dont les plus anciennes datent 3300 avant Jésus-Christ. 3300 avant Jésus-Christ, c'est l'écriture cunéiforme, ou 3200 ans avant Jésus-Christ, c'est les écritures hiéroglyphiques de la vallée du Nil. Et le Mont Bégaud, c'est 3300 avant Jésus-Christ. Donc, on peut dire que les plus anciennes écritures, les plus anciens codes pour transmettre des idées, c'est avec une cunéiforme, avec l'hiéroglyphe égyptien, les écritures du Mont Bégaud. Mais alors que l'écriture cunéiforme ou l'écriture hiéroglyphique égyptienne sont entrées dans l'histoire, l'écriture du Mont Bégaud a disparu 1800 ans avant notre ère, sans laisser de traces.
C'est le seul lieu en Europe ou en France où l'on retrouve justement ce type de langage, ce type de code ?
Oui, c'est une des plus anciennes sites, mais il y en a aussi, je pense, dans toute l'Europe. Et je vais d'ailleurs organiser au mois de juin prochain une grande exposition 2009. À Tende, au Musée des Merveilles à Tende, où on va présenter les gravures de l'âge du cuivre et de l'âge du bronze à travers toute l'Eurasie, depuis le Portugal jusqu'au Kamchatka. Et d'ailleurs, j'invite vos auditeurs à venir visiter, à Tende. Vous voyez, c'est à 80 km d'Ordre de Nice. On peut y aller facilement à partir de Ventimille par la Valeroya. Et là, nous présentons dans ce musée ces gravures de l'âge du cuivre, de l'âge du bronze ancien, avec des moulages de parois rocheuses. Et puis, s'ils ont beaucoup de courage, ils peuvent louer un 4x4 à Tende. Et puis, après une marche à pied dans la vallée des Merveilles, découvrir ces inscriptions de l'âge du cuivre et de l'âge du bronze, qui datent de quelques millénaires.
Et ces inscriptions, elles sont protégées, j'imagine, ou elles
sont... C'est difficile encore... de protéger des régions en plein air, mais oui. En principe, oui, c'est ça. Si vos visiteurs, si vos amis veulent les visiter, ils doivent demander un guide pour les accompagner, car la plupart de la zone est interdite aux visiteurs tout seuls, justement pour pas que des touristes soient tentés d'inscrire leur nom, ou de les graver, ou même de les enlever.
Dernière question, Henri Lumelet, ces traces, ces informations, ces codes, c'était une manière de vénérer la montagne en elle-même ou alors une manière de s'élever un peu plus près du ciel ?
En fait, c'était des cultes propitiatoires pour que les dieux du ciel envoient de la pluie pour remplir les bassins, pour alimenter les rivières, pour remonter le Sillon. D'ailleurs, beaucoup de ces gravures sont liées au culte de l'eau. Par exemple, on voit très souvent gravé un attelage, on voit les deux bœufs reliés par un joug, attelé à un timon qui tire en arrière. Et ce n'est pas un attelage qu'on a voulu représenter, c'est l'idée du sillon. Et parfois, on voit un poignard placé entre les cornes du corniforme. Le poignard, c'est l'attribut du dieu de l'orage, c'est la pluie du ciel qui féconde la terre. Et quand on voit un attelage avec les deux bœufs reliés par un joug et un poignard entre les cornes, deux poignards entre les cornes de chacun des corniformes, on peut dire que c'est pas on n'a pas voulu représenter un poignard, on n'a pas voulu représenter un arrière, mais on a voulu représenter l'idée du ciel qui féconde la terre, qui irrigue le sillon. Et époque récente, très récente, et je crois toujours d'ailleurs, en été, au mois d'août, il peut y avoir des processions dans les champs, ce qu'on appelle la fête des rogations. D'ailleurs, au Moyen-Âge, la fête des rogations, ce n'était pas l'Église qui les organisait, c'était le pouvoir civil qui demandait aux prêtres d'organiser une procession au mois d'août dans les champs pour que le dieu du ciel envoie la pluie sur la terre. Et je connais un tableau qui est à Grasse, où on voit c'est un tableau du 18e, je crois, on voit une procession. Au premier plan, il y a le Saint-Sacrement, les prêtres avec leurs chasubles, puis derrière des prêtres avec des étendards, puis le public. Et puis au fond, on voit des paysans qui brandissent des hallebardes. L'hallebarde, au Mont Bégaud, c'est l'objet cultuel qui a pour but de faire tomber la pluie. Et l'hallebarde est très représentée dans la vallée des Merveilles. Et aujourd'hui, cette tradition a continué. On dit « il pleut des hallebardes ».
En tout cas, je vous remercie, professeur Delumelet, de nous avoir donné tous ces détails sur 10 hauts lieux de la préhistoire parmi tant d'autres. On l'aura bien compris. 10 hauts lieux que vous connaissez sur le bout des doigts et qu'on vous parlez avec beaucoup de passion. Et on vous remercie. Je précise que Canal Academy enregistre et diffuse les conférences de l'Institut de paléontologie humaine qui ont lieu une fois par mois, les jeudis, et qui donc se déroulent à Paris, à l'Institut de paléontologie humaine. Et vous intervenez très souvent, pour ne pas dire toujours. Merci. Merci professeur Delumelet et j'espère à une prochaine fois pour
Merci,
une
madame.
Prochaine publication ou un prochain scoop.
Merci.
Au revoir.
Madame.